dans la jasette numéro 32. Je vais te parler de Uber Eats. On va avoir des fun facts. Je vais te parler d'un texte exclusif au Patreon, d'une suggestion de film « Tu ne tueras point » paru en 2016. Je vais te parler du Happy Buffer Podcast de l'unique Yann Thériault, ainsi que des fameux optimistes de Rouyn-Noranda 1978-1979, incluant Pierre Turgeon, André Rascot, Éric Desjardins, Stéphane Matteau. Et ça commence,
et ça commence,
et ça commence,
et ça commence, ça commence, maintenant, ça commence, maintenant.
Salut gang, vous êtes bien dans la jasette numéro 32. Je commence ça tout de suite en partant avec une suggestion de film. Là, je vais te donner une suggestion que mon fils m'a proposée. Mon fils s'intéresse, qui a 9 ans, va avoir 10 ans le 2 septembre prochain, s'intéresse aux films de guerre, tout ce qui concerne la Première Guerre mondiale, la Deuxième, ce qui concerne Pearl Harbor, la guerre du Pacifique, la guerre en Corée. Donc, il s'intéresse beaucoup à ces films-là. Puis moi, je l'encourage là-dedans. C'est historique, donc c'est intéressant. Il s'intéresse beaucoup à ce que les nazis ont fait à l'époque. Il a vu beaucoup de reportages sur YouTube. Puis moi, je trouve qu'on, d'un point de vue culturel, ben c'est important. Donc, c'est ça. Il m'a proposé un film, Théo, me disant, j'aimerais ça voir ce film-là qui s'appelle « Tu ne tueras point ». C'est un film qui est paru en 2016, réalisé, imagine-toi donc, par Mel Gibson. Et puis, ça raconte l'histoire vraie, c'est biographique, du caporal Desmond T. Doss. Bon, est-ce que c'est un grand film? Bon, ça ne deviendra pas un classique. Du genre, c'est pas Apocalypse Now, c'est pas Platoon, c'est pas Full Metal Jacket, ok? Pour te donner des référents. Mais par contre, c'est un beau film. Moi, j'ai bien aimé. Il y a des bouts de cheesy, mais c'est bien correct. La narration est belle. Le film est bien fait, bien réalisé. Les prises de vue sont exceptionnelles. J'ai été ému pendant ce film-là. J'ai pleuré pendant ce film-là. Donc, c'est sûr que c'est un film que je recommande. C'est une production australo-américaine. En anglais, ça s'intitule, si tu veux le voir en anglais, ça s'intitule Hacksaw Ridge. Il a été nommé dans 6 catégories aux Oscars en 2017, dont le meilleur film. Comme je te dis, C'est un bon film. Mais je ne le mettrai pas à la même hauteur que ceux que je t'ai dit précédemment. D'accord? Il a gagné l'Oscar du meilleur mixage de son et du meilleur montage. C'est vrai que le montage était très, très bon. Bon, pour ce qui est des acteurs connus dans le film, il y en a beaucoup. Andrew Garfield, qui a fait Spider-Man, Vince Vaughn, Sam Worthington, puis Hugo Weaving. Bon, tu peux aller voir ces noms-là, tu peux googler, puis c'est tous des visages que tu vas reconnaître. Peut-être que les noms ne te disent rien là, présentement, mais tu vas reconnaître. Le genre de film, ben, c'est historique, c'est un drame historique, d'une durée de 131 minutes, donc à peu près 2h20. Puis moi, ben, tu le sais déjà, j'adore ça. Des films en haut de 2 heures, j'aime ça, j'en prendrais plus. Des films qui durent 2 heures, 3 heures. Moi, je suis acheteur à ce niveau-là. Et puis, ce film-là remplit ce besoin-là que moi j'ai, tu sais. Donc, on peut y aller avec le synopsis, si tu veux bien. Desmond Doss, le personnage principal, c'est le fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale. Veut apporter sa pierre à l'édifice lorsqu'éclate la guerre du Pacifique. Bon, là, je viens de te lire ça intégral. C'est-à-dire que lui, il veut participer. Il souhaite s'engager, mais refuse de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses croyances adventistes. Lui, il est très, très, très religieux. Lui, il veut pas tuer personne. Lui, il va aller là en tant qu'infirmier. Donc, c'est un peu ça l'histoire. L'unité de DOS a été affectée à la 77e... Excuse-moi. Bon, comme je te disais au préalable, là, ben je m'excuse là, pour la sonnerie de téléphone. Comme je te disais au préalable, Desmond DOS, son unité a été affectée à la 77e division d'infanterie. Pour participer à la guerre du Pacifique, à la bataille d'Okinawa. Donc, sur cette guerre-là qu'on fait référence. Tu vois le titre « Oxo Ridge », en fait, si on le traduit proprement en français, c'est « Falaise du hachoir ». Donc, c'est un peu beaucoup que se passe l'action à Okinawa. C'est sur le bord d'une falaise. C'est complètement fou. Les images des combats sont incroyables. La photographie là, de Simon Duggan est complètement exceptionnelle. Donc, je te disais le genre guerre, drame historique, biographique. Puis vu que c'est un drame biographique, je trouve que ça donne un petit côté de plus au film. Donc, moi, ben, je te le suggère fortement. J'aimerais ça que... Oh, aussi, je voulais dire, il y a Milo Gibson aussi qui joue dans le film. Et je ne sais pas si c'est le fils. Ben, c'est probablement le fils, moi, de Mel Gibson. C'est drôle, ça. J'avais pas remarqué ça avant là. C'est un film que je te suggère. Tu peux le regarder en famille aussi. 10 ans et plus, je te dirais. Si t'as des enfants qui s'intéressent à l'histoire, c'est un pan de l'histoire qu'on connaît moins. Moi, Desmond Doss, je le connaissais pas. Mais là, j'ai appris à le connaître à travers ce film-là. Un être exceptionnel, un humain d'exception. Ça fait c'est un genre de... Je peux pas dire un feel-good movie, non, je peux pas dire ça. Mais par contre, je peux te dire que c'est le genre de film que tu sais, c'est 2h20, là, puis t'as fini le film, puis t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu sais, c'est... T'as appris. Puis moi, je trouve ça bien, bien important, tu sais. Donc, va checker ça, tu ne tueras point... Et puis, donne-moi le temps des nouvelles. J'ai un texte qui est sorti hier pour les Patreons, ben, c'est-à-dire ce matin. On est mercredi le 10 juin. un texte qui s'intitule « Homère, mais pas comme dans l'Odyssée ». Ça parle d'un gars du Petit Canada, un personnage. Je raconte son histoire, le pourquoi que lui, il a sombré dans l'alcoolisme. Donc, ben, c'est quelqu'un que les gens de la chute connaissent, là. Donc, je raconte son histoire. Ce texte-là va être seulement disponible sur Patreon. Il sortira pas ailleurs. Ben, quand il va sortir, ça va être pour mon livre. Bon, vous savez déjà, j'offre mes textes de mon prochain livre à mes Patreons. Donc, si tu veux t'abonner, c'est à partir de 2$ par mois.
Ouais, ben là, c'est l'heure
des fun.
Fun.
Savais-tu, la barbunation, que la sauce tomate des années 1800 était vendue comme un médicament, vrai comme je suis là. C'est quand même incroyable quand tu penses à ça. Savais-tu, la barbunation, vrai comme je suis là, tout ce que je te dis dans mes fun facts, c'est vrai même si des fois ça peut paraître bizarre. OK? Donc, savais-tu, la barbunation, que la police de New York avait un officier qui suivait partout le géant ferré quand il était en ville? La police de New York voulait s'assurer que les fois que le géant était sous, il écrase pas personne. Vrai comme je suis là. Dans la suggestion de podcast, on va y aller avec un podcast que j'aime beaucoup, celui de Yann Terriot. J'allais te dire le Daily Buffer Podcast, mais on peut plus l'appeler comme ça maintenant, parce qu'imagine-toi donc, il a changé de nom vu qu'il n'en fait pas tous les jours. Il appelle ça maintenant le Happy Buffer Podcast, mais il nous a dit peut-être que ça va changer de nom. Il est dans beaucoup de changements présentement. Yann, il déménage. Il a décidé de refaire plus de vlogs que de podcasts. Il est dans plusieurs changements, puis il veut faire avec ses chaînes une place pour le buffer, une place pour le vlog, une place pour les peintures, le Twitch, puis tout ça. Donc, il veut centraliser ses choses, il se trouvait éparpillé, et je suis un peu d'accord beaucoup avec lui. En ce qui traite le buffer, moi, c'est sûr que je n'aurais pris à tous les jours, là, j'aimais beaucoup ça, l'écouter. Le dernier épisode du Happy Buffer Podcast, si t'as 10 minutes à écouter, là, mettons, il dure 2h20 l'épisode, c'est pas dans son habitude, là. L'épisode dure 2h20, et puis les 10 premières minutes, là, quand il compte ses péripéties à l'hôpital, il a passé une nuit à l'hôpital, puis avec sa petite chaise d'aisance, là, pour ceux qui l'ont écouté, vous riez, là, c'est clair, là. Écoutez le 10 minutes, le début, quand il parle de chaise d'aisance. C'est drôle en tabarnouche. Puis lui qui disait qu'il était tanné de faire son 5 minutes en stand-up en parlant de jardinage. Mais là, moi, je trouve qu'il y a un 5 minutes à faire avec ça, là, c'est clair, là. C'est vraiment... J'ai ri, là. Mais tu sais, quand t'as mal au ventre puis tu ris de bon cœur, là, il me fait rire de même. Fait que je te conseille d'aller écouter le Happy Buffer Podcast. Puis si tu vas sur YouTube, sur sa chaîne, là, tu vas voir, il segmente ses sujets. Donc, 10 minutes sur un tel sujet, 15 minutes sur l'autre. Puis si tu veux l'avoir au complet, là, il faut que tu ailles sur yanterriot.com/buffer. Là, tu peux avoir comme avant, comme moi je faisais, avoir les épisodes au complet. Donne-moi-en des nouvelles, ça m'intéresse. Là, je vais te donner mon opinion bien personnelle, là, sans gage juste moi, sur un phénomène que je trouve bien, bien drôle. Ici, à Saint-Jérôme, on a une compagnie qui livre, qui fait de la livraison de bouffe, qui s'appelle Livro. C'est un peu comme Uber Eats. Ben, c'est là-dessus, en fait, que je vais te parler de Uber Eats. Quel drôle de phénomène. En tout cas, moi, c'est peut-être pas ma génération, là, mais... Il est loin le jour que je vais commander par paresse du McDo, par Uber Eats, payer 15-20% de plus sur ma facture juste pour avoir un Big Mac. Tu peux être sûr et certain que ça n'arrivera jamais. Puis ça, on dirait que c'est plus un phénomène pour les plus jeunes. Je je te dirais les 30 ans et moins, d'après moi. Là. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je vois mal des gens de mon âge dans la quarantaine. « Ah ouais, on va appeler Uber Eats, puis on va commander du McDo. » Non, ça ne marchera pas de même. Puis l'autre affaire que je trouve avec Uber Eats, il engage du... C'est du « cheap labor ». Personne qui fait d'argent que ça, là, c'est des jobs d'étudiants. Ça enlève la job aux vrais livreurs, ceux qui travaillent dans les pizzerias, ceux qui travaillent dans les rôtisseries. Tu comprends ce que je veux dire? Ça enlève la job à ce monde-là. Puis moi, je connais plein de monde qui travaille dans le domaine, puis c'est des gars, des filles qui travaillent fort pour chaque scène. Puis ça, je trouve que c'est comme... comme image, comment je pourrais te dire, donc c'est comme un croc en jambe, là. C'est comme, ouais, pour eux autres, tu sais, ça leur enlève la job, en tout cas, pas pour ça, je sais pas si l'offre, exemple, chez Saint-Hubert, parce qu'ils ont déjà leur livreur, mais si ça se fait, je trouve ça malheureux, parce que déjà, des places comme Saint-Hubert ou Scores ou ils offrent la livraison gratuite de toutes les pizzerias. Pourquoi aller payer parce que là, tu veux du McDo ou du Subway, whatever, parce qu'eux autres, ils n'ont pas de livreur? Non, je suis pas sûr que c'est un bon service. C'est un drôle de service tant qu'à moi. Bon, encore là, on est pour la liberté. Liberté d'expression aussi, c'est-à-dire on a bien le droit à notre opinion, vous avez le droit à la vôtre, comme moi, j'ai le droit à la mienne. Excusez-moi, on va prendre une petite gorgée. Tu vois, je pensais que cet épisode de podcast-là serait super long. Puis là, j'ai pas mal épuisé mes sujets, puis j'arrive à 15 minutes. Mais m'a essayé de faire un autre 15 minutes avec le dernier sujet de la jasette numéro 32. Imagine-toi donc que j'ai maintenant un recherchiste. Moi, ouais, un recherchiste. Attention, originalement de Rouyn-Noranda. Maintenant, ayant domicile à Boisbriand, mon recherchiste s'appelle Sylvain, puis il me lance des idées, puis il m'envoie ça par Messenger, puis il m'écrit, puis moi je vais lire ça, puis ça me fait de la lecture, puis je trouve ça bien intéressant, puis c'est bien le fun, il m'envoie bien les affaires. Puis le premier sujet, il a tapé dans le mille, c'est drette des affaires que j'aime jaser. Mais avant tout, je voulais te dire de ne pas oublier que si tu veux éviter les lignes à l'épicerie, ben c'est bien, bien simple. Tu vas voir mon ami, tu vas pas voir. T'appelles mon ami Roger Yangang ou tu vas sur la page Facebook de Chef Maison, facile à trouver. Et il est sur Instagram aussi, il est sur Twitter. Donc, tu vas voir ses pages, ses réseaux sociaux et... c'est la meilleure façon d'éviter les épiceries. Puis n'oublie pas, le 5 jours familial à 75$. Ça, m'a dit comme le gars, c'est imbattable. Beau, bon, pas cher. Là, mon sujet, comme je te disais, il vient d'un gars de Rouyn-Noranda. On va parler de Rouyn-Noranda. C'est la belle époque. Le sujet que mon recherchiste, j'aime ça dire recherchiste, m'apprendre à dire le mot comme du monde, puis ça fait péter aussi, je trouve, ça me donne la crédibilité. Donc, quand ça sera pas bon, ben, il va vous dire, Chris, c'est de la faute de Sylvain. C'est ça qui arrive. Je m'enlève un poids. Merci, Sylvain. Tu m'enlèves un... dernier sujet, la belle époque. Ça se passait en 1978-79. C'était au niveau Atome A au hockey, bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est l'équivalent du 2B. Écoute bien ça. Les optimistes de Rouyn-Noranda ont complètement survolé la saison 78-79. Ils ont tous gagné le tournoi, les séries, le championnat provincial. Écoute bien ça, avec un dossier de 46 victoires, aucun revers et 3 verdicts nuls. Qui c'est qu'il y avait dans cette équipe-là? Attache ta tuque. Là, on s'entend, on est d'une ville d'à peu près 25 000 habitants, là, pas plus, là, 25-30. C'est pas une grosse ville, là, Rouyn-Noranda. Là. Bon, en Abitibi, c'est gros, là, avec Val-d'Or, puis, c'est les plus grosses villes, là, mais bon. attaché à Tuc. Dans la même équipe, il y avait Pierre Turgeon, le grand Pierre Turgeon, Hall of Famer, Stéphane Matteau, un gars de série, Éric Desjardins, 3 buts pour la Coupe Stanley avec le Canadien, puis André Rassico, 2e en arrière de Patrick Roy qui a gagné la Coupe en 93 aussi. T'imagines-tu la force des optimistes de Rouen à l'époque? C'est du impossible, on ne reverra plus jamais ça. Sylvain, lui, a vécu ça, il l'a, sans vraiment en être conscient de l'ampleur de tout ça, mais cette équipe-là, on ne reverra plus jamais ça. Excuse-moi. Et puis, en plus, là, les 4 joueurs que je t'ai nommés, cette année-là, c'était des joueurs de première année. C'était même pas les meilleurs dans le groupe. Peut-être à part Pierre Turgeon qui ressortait du lot, parce que déjà à 12 ans, il mesurait 6 pieds, puis il pesait 175 livres. C'était déjà un bœuf, là, tu sais. Le meilleur joueur du groupe, il s'appelait Pierre Sabourin, puis c'était le capitaine de l'équipe. Il y a une couple d'années plus tard, il était joué dans le Midget 3, mais il s'est pas rendu plus haut, lui. Okay? Il a joué avec les gouverneurs de Sainte-Foy. Sa dernière année, en 46 matchs, je crois, 51 buts, 109 points. Fait que, rajoute Pierre Sabourin aux 4 noms que je t'ai donnés, puis t'as les optimistes de Rouen qui ont tout raflé sur leur passage. Mais là, attends une minute. On n'a jamais été pour se douter dans le coin de Rouen que ces 4 gamins-là de 10 ans, un jour, allaient remporter 3 Coupes Stanley, puis qu'un deviendrait le capitaine du Canadien. Là, je veux dire, c'est plus grand que nature. T'sais, déjà, comme je te dis, il était 6 pieds, 175 livres à 12 ans. Puis, ben, c'est peut-être ça aussi qui a fait que Pierre, avec sa grosseur, c'est pour ça qu'il a eu, avec son talent fou aussi, mais il a monté dans le hockey mineur à une vitesse folle. T'sais, à 15 ans, il jouait midget 3. Fait que c'est rare, là, t'sais, puis c'était un bon joueur. Là. Puis eux, le phénomène qu'il y avait à cette époque-là, puis moi, c'est mon époque aussi, donc tu jouais au hockey l'hiver, tu jouais au baseball l'été. Ben ces 4 gars-là, ils étaient 4 lanceurs. Il y avait un gaucher, c'était Éric Desjardins, puis des fois, il jouait au 2e but. Puis des fois, il jouait au 3e but. Les 4, ils lançaient, ils ont joué ensemble. Ils jouaient dans le district numéro 4 de l'Ontario, avec avec Sudbury, Kirkland, Lake puis Timmins. Ben, il y a une année, ces 4 jolis drills-là ont atteint le championnat national disputé à Vancouver. Puis les 4, c'était les 4 meilleurs frappeurs de l'équipe. Je veux dire, c'est exceptionnel, là. Puis Stéphane Matteau de dire dans un article du Journal de Montréal que c'était comme un miracle qu'ils se rendent là, eux autres, là. Il n'y avait pas les plus beaux terrains à Rouen, il n'y avait pas d'entraîneur spécifique, il n'y a personne qui voulait leur montrer la technique, il n'y avait pas de pratique au bâton avant les matchs, c'était vraiment homemade, là. C'était des passionnés, c'était des jeunes avec beaucoup de talent, des athlètes exceptionnels. C'est sûr que quand ils sont arrivés cette année-là à Vancouver, ils se sont fait démantibuler, mais ça les a préparés, les 4 joueurs, dont Turgeon puis Matteau, à ce qu'ils attendaient l'année suivante. Imagine-toi donc, les gars des optimistes de Rouen, l'année d'après, les petits gars de 12 ans, fait que les 4 gars, imagine-toi donc qu'à 12 ans, ils se sont rendus. Je te le dis, j'en ai des frissons, là. Ils se sont rendus à la Série mondiale des petites ligues à Williamsport. Pierre Turgeon, Stéphane Matteau. D'ailleurs, je te raconte cette histoire-là. Puis je me rappelle comment on a traité Pierre Turgeon à Montréal. Je me rappelle de la transaction. Que nous, les partisans du Canadien, là, on est des petits partisans, puis on n'est pas capable d'apprécier le talent. On est des jaloux. Je regardais d'ailleurs sur Hockey DB. Je vais revenir sur mon histoire après, OK? Je fais le tour de hockey DB pas mal de ce temps-là parce qu'il n'y a pas grand sport qui joue. Puis moi, je suis pas fan de NASCAR. Fait que rien contre NASCAR, by the way. Mais je comprends pas l'intérêt de regarder des chars tourner en rond. Puis là, je change de sujet. Chaude du coq à l'âne. Mais bon. Je regardais sur hockey DB. Hey, Patrice Brisebois, il a joué 16 ans avec le Canadien. Puis on l'a traîné dans la boîte. C'est ça qui fait que j'avais cette conversation justement avec mon recherchiste, puisque je disais que j'avais une relation amoureuse avec mon club qui est le Canadien. Des fois, moi te le dire juste à toi, là. Des fois, là, dis-les pas à Frank Etty, là, mais des fois, je pense à sauter l'autre bord de la clôture, puis devenir un partisan des Bruins de Boston quand je regarde le marchand d'amour, Brad Marchand, Pasternak, quand je regarde Patrice Bergeron, Tony Krug, à la défense que j'adore. McAvoy, quel défenseur. Bon, bref, je reviens à mon... Fait que c'est comme ça que... Le Rotary de Rouen. Hey, on avait un Rotary, nous autres aussi, à la chute. Ça me fait rire. Là, je vois les photos qui sont en noir et blanc sur le Journal de Montréal. Je vais donner le crédit au journaliste sur lequel je parle de l'anecdote, là. Après, à la fin de que je voulais raconter. Donc, le Rotary de Rouen, je me demande s'il était jaune comme nous autres. Nous autres, on était jaune, serein, c'était laid, Saint-Anne. Là, ça ressemblait aux habits des Canucks de Vancouver à l'époque avec le King, le roi, Richard Brodeur, puis Tony TNT. Donc, Rouen a représenté le Canada aux séries mondiales des petites lignes à l'été de 1982. Hey, 1982! C'est le match des étoiles qu'il y a eu à Montréal. Tu vois comment au Québec, on était... Tout était possible en 82. T'es capable de gagner des Coupes Stanley, t'es capable de gagner des Coupes Grey, t'es capable de gagner des séries mondiales, t'es capable d'aller au World League. On affrontait les méchants joueurs de la Taïwan. Mais eux, ils ont toujours dominé, puis on s'est toujours demandé... Je veux pas être mauvais perdant, mais on s'est toujours demandé s'ils jouaient pas ces âges des joueurs. Puis ça a toujours été ça, parce qu'il n'y a jamais des gars qui ont sorti ben de Taïwan après pour aller dans les majeurs. Quand ils se sont présentés là, le Rotary, avec le peu d'expérience qu'ils ont puis qu'ils jouent juste l'été, là, la formation de Taïwan avait gagné les 5 derniers tournois. Ils se sont présentés en finale. Ils ont joué la finale. Sais-tu ce que ça représente pour des petits gars qui restent en Abitibi? En Abitibi, là où, en plein mois de juin, le sol peut geler. Puis c'est vrai, ça, là. Moi, je parle en connaissance de cause. Je connais l'Abitibi. Moi, je connais Amos, je connais Sainte-Terre, je connais ces coins-là, je connais Kipawa, réserve indienne. Donc, moi, j'ai passé quelques étés là-bas. Donc, je suis en mesure de dire que c'est un pays de misère. Tu sais, la Taïwan, eux, ils jouent au baseball à l'année, tandis qu'eux autres, les petits gars de l'Abitibi, c'est 2 mois par année. Fait que ça te donne une idée, tu sais. Je te ramène, là, c'était des 7 manches dans le temps. Il restait 2 manches à jouer. Le Rotary menait 4-3. Ce qui est du domaine de l'exploit, du miracle. Appelle ça comme tu veux, là. Les Pierre Turgeon, les Stéphane Matteau, les Éric Desjardins, les André Dasco, 4-3, 2 manches à jouer. C'est Stéphane Matteau, le meilleur pitcher de l'équipe, qui lançait. Puis tout à coup, le Taïwan, à 4-3, à l'avant-dernière manche, ils ont éclaté pour 7 points d'une manche. Dans ce temps-là, aujourd'hui, après 3-4 points, t'enlèves ton lanceur, t'en mets un autre. Mais là, il n'y en avait pas d'autre. Il a fini le match. Mais il l'a fini de belle façon. Dans la dernière manche, j'étais 10-4 pour la Taïwan. Puis la fierté de Rouen m'a démontré beaucoup de caractère. Ils ont réduit l'écart à 3 points en plaçant 3 coureurs ses sentiers avant même le premier retrait. À ce jour-là, le lanceur de la Taïwan a eu 15 retraits sur des brises. Mais ce fut toute une aventure pour les petits gars de Rouen. Je dois donner le crédit de ce que je viens de vous dire au journaliste Jonathan Bernier du Journal de Montréal. L'article est paru le samedi 23 mai. Tu peux le retrouver en cherchant pour Jonathan Bernier, ou tape aussi « Dominant été comme hiver », ça c'est le titre de l'article, très bel article, bravo, on en veut plus des articles comme ça, c'est bien intéressant, moi j'ai appris beaucoup à travers ça, lui Sylvain, mon recherchiste, connaissait déjà toute cette histoire-là, puis de voir les faces de Resco, Mato, sa photo, Eric, puis Pierre Turgeon, là, m'a dit, c'est assez drôle. Donc, c'était toute une aventure pour les optimistes puis les rotariés au baseball. Bravo à vous autres, les gars, puis bravo à ceux qui ont eu la chance de vivre ces belles années-là. On verra plus jamais ça. Sur ce, on se revoit à la Josette numéro 33.